12h-13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Bienvenue à toutes et à tous dans les midis de culture. À 13h, je recevrai la chanteuse Lio pour son dernier album, Geoid Party in the Sky. Nous reviendrons avec elle sur son parcours et sur ses prises de position sur l'industrie musicale notamment. Mais d'abord, place à la critique, au programme de la musique. Nous rendrons d'abord hommage à Eliane Radig. Puis le débat portera sur l'album de Gorillaz Mountain qui sort demain sur le label Kong et sur le documentaire musical épique Elvis Presley in Concert de Baz Luhrmann en salle depuis hier. Autour de la table des midis aujourd'hui, Christophe Comte et Philippe Azoury. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, critique et auteur. Nous ne pouvions pas commencer cette critique musicale aujourd'hui sans rendre hommage à Eliane Radig, pionnière de la musique électronique, qui est morte cette semaine à 94 ans. Philippe Azoury, qu'est-ce qu'elle a apporté à la musique selon vous, Eliane Radig?
D'abord dire que c'est une jeune femme de 94 ans qui nous a quittés. C'est une éternelle jeune femme, sans cesse ressuscitée, sans cesse en recherche. C'est une trajectoire assez inouïe, Eliane Radig. Elle était l'épouse d'Armand, le plasticien, à Nice. Elle se sépare de lui au milieu des années 60 et elle reprend un travail d'archiviste auprès de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry. Et là, elle rentre en connexion, en communication, si on veut, avec à la fois la musique concrète, la musique sérielle, la musique minimaliste, la musique minimale. Mais c'est à la fin des années 60, lorsqu'elle a fait venir des États-Unis un des premiers très très grands synthétiseurs. Il faut imaginer les synthétiseurs qui prenaient à peu près la taille de votre appartement. Le Harp de 1500, dont elle avait justement demandé ce qu'il n'y ait pas le clavier pour pouvoir faire autre chose. Elle a commencé à moduler, elle a commencé à amener une musique qu'il est difficile de qualifier, parce que si elle communique avec la musique concrète, la musique sérielle, la musique électronique au sens où on l'entend aujourd'hui, dont elle est la pionnière, mais finalement c'est encore autre chose que ce qu'on peut imaginer dans les clubs, c'est peut-être aujourd'hui le drone, c'est-à-dire vraiment de longs étirements.
Ce qu'on entend là?
Voilà, de longues vibrations. Et ce qu'on entend là, c'est un extrait de Trilogie de la mort, une pièce de 3 pièces qu'elle a commencé en 1988 et qu'elle a écrit sur une décennie. C'est un morceau absolument incroyable qui s'appelle Kiema. C'est peut-être un moment un peu de nuages, quoi, dans l'œuvre d'Eliane Radig, parce que c'est à peu près le moment où, à la fois, sa recherche sur ce qu'elle appelait la mystérieuse puissance de l'infime rejoint la découverte d'un moment de spiritualité qui est le bouddhisme tibétain. Et ce sont 3 pièces qui sont autour du bardo Todol et sur les 6 états comme ça intermédiaires entre le passage de la vie à la mort. On peut espérer que Eliane Radig n'est pas morte, mais qu'elle ressuscite. Et si nous, on veut l'entendre quasiment vivante, il y a une occasion à Paris assez unique, ce sera le 21 avril. C'était prévu comme ça, hein, ça c'est pas du tout. Ce sera à la Bourse de Commerce, sous l'égide de François Bonnet, avec une présentation d'un autre ami à nous, qui est Joseph Gosne aussi, voilà, qui connaît bien la question. Et ce sera dans la rotonde, face à la pièce de Pierre Huyghe. Voilà. Il faut dire une chose aussi, c'est que Eliane Radig avait 94 ans, elle n'a jamais cessé de créer. Elle a vécu à l'ombre de tous les grands hommes. Hein, voilà, on connaît l'histoire d'entre les années 50-60. Imaginez faire de la musique minimale, contemporaine, sérielle, en étant une femme dans les années 70-80, c'est-à-dire on est dans un désert et une solitude totale. Et elle a commencé à être redécouverte au début des années 2000, elle avait déjà à peu près 75 ans. Elle a toujours accueilli des très très jeunes artistes et elle adorait une chose, c'est qu'elle adorait déjà que cette jeunesse vienne la célébrer, voir en elle une pionnière, et elle adorait que des gens se cassent au bout de 10 minutes à ses pièces. Elle disait, tant qu'ils se cassent, ça veut dire que ce truc est vivant. Le jour où ils partiront plus, ce sera complètement muséifié, ce sera mort. Alors, venez à la Bourse de Commerce, réécoutez ces disques, regardez ces enregistrements, il y a beaucoup d'interviews sur Internet. C'est une dame absolument passionnante, c'est une jeune dame absolument passionnante. Et cassez-vous si jamais des pièces d'une
soyez
heure
libre de partir.
Il se passe très peu de choses. Ou alors, plongez dedans et noyez-vous dans la mystérieuse puissance de l'infime.
Christophe Comte, peut-être une phrase.
Une grande dame, voilà, dont la disparition est à la fois bon un peu attendue, hein, 94 ans, mais sa musique survit et il y a quelque chose qui a à voir avec les sujets dont on va parler après,
oui,
sur cette idée de survivre et de voilà cette mystique de la survivance.
Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer?
On commence notre débat critique avec The Mountain, le 9e album de Gorillaz, groupe britannique fondé par Damon Albarn et Jamie Hewlett, qui mêle pop, électro, hip-hop, entre autres influences. Tous les deux marqués par le deuil lors d'un séjour en Inde, l'album qui convoque un vaste paysage sonore est composé de 15 titres et de multiples collaborations. Alors, la musique peut-elle adoucir notre rapport à la mort? Telle est la question posée par The Mountain. Christophe Comte, un premier mot rapide sur cet album.
Un album assez ambitieux et à la fois très joyeux, très mélancolique forcément parce qu'il y convoque pas mal de fantômes. Et pour moi, le disque sans doute le plus ambitieux depuis très longtemps pour Gorillaz.
Philippe Azoury.
Je suis assez d'accord avec Christophe sur l'ambition. Je trouve que c'est vraiment leur disque le plus ambitieux, peut-être même l'un des plus réussis avec les deux premiers. Et cependant, moi, je reste comme toujours avec le projet Gorillaz. Je suis tout à fait partagé, à la fois par l'admiration que je peux avoir envers Damon Albarn et envers je trouve la sincérité de ses intentions qui est totale, et en même temps un résultat où j'ai l'impression qu'il se cache toujours derrière le masque ou derrière le personnage avec Gorillaz, et il me manque un supplément d'âme, mais de l'âme on va en parler pendant les 10 minutes qui suivent avec Christophe.
You know the hardest thing.
Sauf quand vous avez choisi pour nous ce morceau qui s'appelle Orange County de ce dernier album. Vous avez employé tous les deux le mot ambitieux, mais Christophe, en quoi il est ambitieux cet album? Où est-ce qu'il se pose?
Déjà par rapport à ce titre, je trouve qu'il résume parfaitement l'album parce que la phrase, voilà, c'est la chose la plus difficile au monde, c'est de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime. Sur ce sifflement un peu joyeux, je trouve que c'est vraiment un bon résumé. Alors il est ambitieux parce que alors il y avait Plastic Beach il y a une dizaine d'années qui avait été un album comme ça, conçu vraiment comme un objet sonore. Et puis depuis, Gorillaz était devenu un peu un jukebox comme ça. Disons que Damon Albarn faisait ça entre d'autres projets. On avait l'impression qu'il n'y avait plus l'envie de faire un album de cette ampleur-là, de cette amplitude, avec... Certes, l'Inde en toile de fond qui a été très importante pour eux deux, pour des raisons personnelles, mais aussi parce qu'ils allaient à la découverte d'un continent musical qu'ils avaient assez peu abordé jusqu'ici. Et en même temps, ça ne les empêche pas de ramener ce qui est vraiment la formule de Gorillaz à l'origine. C'est à peu près toutes les musiques. C'est vraiment la sono mondiale, mais dans ce cas-là de plus général. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Philippe tout à l'heure. Là. Et moi, je trouve ça plutôt bien que Damon Albarn se mette, et d'ailleurs, ça s'entend dans sa manière de chanter dans Gorillaz. C'est-à-dire c'est tout l'inverse de Blur. On a l'habitude de voir un tribun et là on a comme un petit garçon qui chante avec une toute petite voix, parfois avec des effets, parce que je pense que quelque part il y a quelque chose dans le projet de Gorillaz qui est de l'ordre du complexe pour lui. C'est-à-dire de se retrouver face à des gens souvent qui considèrent comme beaucoup plus grands que lui. Et cette façon-là de se cacher un peu derrière, de chanter ces petites mélodies qui souvent sont quand même inoubliables, c'est, je trouve, à la fois tout le côté modeste de ce projet qui en fait ne l'est pas puisque c'est un projet très spectaculaire avec des personnages, avec de l'animation, et en même temps ça reste pour moi le projet de Damon Albarn le plus intime et le plus personnel.
Alors Philippe Lazouri, on l'a dit, c'est aussi un album qui parle de deuil, ou en tout cas le deuil est très présent. Alors comment on peut, là on vient d'entendre un titre qui est plutôt joyeux, comment ces deux aspects cohabitent dans cet album?
Non, avant même de commencer là-dessus, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Christophe. ce complexe un peu étrange, entre un complexe même pas d'infériorité, mais en tout cas une volonté d'effacement par rapport à l'immensité de certains artistes, ou à l'immensité d'une culture ou d'un territoire.
D'humilité, une posture d'humilité.
Et quand je dis, parce que bon, c'est des choses qui sont sujettes à débat, appropriation culturelle, on connaît les mots. Moi, il se trouve que vers 2008-2009, j'habitais quasiment en permanence au Liban à cette époque-là, et c'était l'époque où ils ont travaillé sur l'album autour de la Syrie, et il était dans toute la région des Monts Albarnes, et bon, je l'ai pas croisé, mais je savais, parce que tous les musiciens qu'on connaissait avaient été plus ou moins été contactés. Ils cherchaient réellement à rencontrer tout le monde, pas du tout pour vampiriser, mais vraiment pour être à l'écoute et voir ensuite avec qui il aurait envie de travailler, avec qui il aurait envie de construire des ponts. Et là, on parlait justement donc du rapport à la mort. Christophe l'a dit, c'est très très intime dans ces cas-là. Damon Albarn a perdu son père il y a quelque temps. Il est allé disperser les cendres sur les rives du Gange. Jamie Hewett et sa femme sont partis à Jaipur pour rejoindre la mère de son épouse, qui est victime d'un grave AVC dont elle se remettra pas. Et il a lui-même aussi perdu son père quelques jours après la mort du père de Damon Albarn. Donc c'est un album de deuil. Et c'est un album de deuil qui se recueille justement là où la question de la mort est peut-être encore qu'un passage en intermédiaire. On en parlait avec Eliane Radi, c'est-à-dire dans un territoire qui serait l'Inde. Mais c'est quand même beaucoup plus complexe que ça quand on écoute le disque, qui est moins un disque de fusion entre la pop occidentale et la musique indienne, comme les Beatles avaient déjà ouvert. Mish Kassaya a fait une émission avant-hier sur France Inter qui recoupe ça sur une heure, c'est absolument passionnant. Je peux m'en référer parce que je suis pas du tout spécialiste de la question. Mais là où je trouve que le disque est troublant, il m'interroge, c'est que c'est moins un disque, donc un voyage aux Indes, comme ils avaient pu le faire en Syrie, au Mali. C'est un voyage entre deux morts. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que le casting, comme toujours chez Gorillaz, on convoque énormément de noms. Une partie, mais quand même l'essentiel du casting, c'est des gens qui nous ont déjà quittés il y a parfois une dizaine d'années. Il y a Dennis Hopper, Tony Allen, Bobby Womack, Mark Smith de The Fall. On a encore Dave Jolicoeur de La Soul. J'ai l'impression d'en oublier un ou deux encore.
Il y en a. Enfin,
c'est. Généralement, c'est plus un album, c'est la Toussaint.
Mais qu'est-ce qu'elle produit, ces collaborations? Ça donne quelque chose?
Ça produit une idée. Alors, ça donne l'impression de vivre, c'est-à-dire que ces gens-là sont encore là. C'est pas l'hologramme au sens on avait vu que ça avec quelque chose quand même d'assez gênant. Et en même temps, enfin non, c'est vraiment essayer de combiner ce qu'il y a de plus vivant. C'était des prises en fait qui avaient été faites, des gens qui avaient collaboré déjà sur des projets Gorillaz, avec des prises qui n'avaient pas été utilisées, mais sur lesquelles il a quand même reconstruit. Enfin, ils ont reconstruit, Jamie Hewett et Damon Albarn, reconstruit, tissé quelque chose, essayer de trouver justement un dialogue entre les vivants et les morts. C'était même plus entre les cultures comme c'était d'habitude. Et en même temps, je suis très très curieux de la façon dont ça va être reçu, parce que ça n'a jamais été très très simple, hein, l'histoire de faire chanter les morts. Par exemple, on sait qu'ils ont demandé pour ils avaient collaboré avec Lou Reed, ils avaient demandé au Lou Reed Estate, enfin aux héritiers de Lou Reed, de pouvoir réutiliser des prises. Ça a été non tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réaction. Et je sais pas parmi le public, cette idée quand même de faire chanter la mort, c'est pas très très simple. Ça touche à quelque chose de sacré. Il est possible que ce soit rejeté. J'ai pas écouté l'émission de Mishka Essaya sur France Inter hier soir, mais je crois qu'ils se sont un peu accrochés sur cette question-là. C'est ce que Mishka semblait dire lundi. Il y a quand même une résistance pour nous. Qu'est-ce qu'on fait avec la voix des morts?
Christophe Comte, peut-être revenir sur l'Inde. Quelle couleur elle a, cette Inde-là, dans cet album?
Ben, c'est à la fois l'Inde traditionnelle et Bollywood, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à la base, je pense qu'il y a un intérêt pour la musique indienne. On va pas détailler ça, mais enfin, c'est présent dans la musique pop depuis des années, depuis les Beatles. Mais chez Damon Albarn, il y a vraiment cette envie, je pense, déjà d'aller dans ce pays, de découvrir ce pays, et un pays probablement totalement opaque pour lui, donc il s'est immergé là-dedans avec Jamie Hewlett, et je pense qu'ils ont reçu quelque chose comme une bénédiction,
une révélation,
et en même temps ça reste de la pop, donc on utilise des ingrédients pas en ayant l'impression d'être savant. C'est-à-dire que, évidemment, pour des grands spécialistes de la musique indienne, c'est probablement pas le disque qui va les mettre en lévitation. Mais en revanche, pour tout ce qu'on a appris de la musique indienne à travers ce prisme de la pop, je trouve que c'est un bon résumé, parce que c'est pas prétentieux, il y a quelque chose quand même d'une vibration qui vous prend dès la première seconde, dès les premiers accords de sitar. On est embarqué. Alors ça peut avoir un côté un peu comme ça, voyage un peu superficiel ou fabriqué comme ça, et je pense que c'est tout l'inverse de ça, parce que à l'origine l'origine quand même Gorillaz, faut pas oublier que c'est un projet qui c'est le projet jeunesse hein, de jeune public de Damon Albarn. C'était l'idée de briser ce truc qui était les boys band à l'époque. Et donc ils se sont dit on va faire un faux boys band et on va vraiment complètement casser ce truc là. Et ils y sont parvenus d'une certaine manière parce que ce projet plaît aux jeunes depuis des années. Voilà. Et donc aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a toujours ce désir-là, quand même, de faire découvrir. Et ça, je trouve ça assez génial de la part de Damon Albarn, de cette générosité-là, parce qu'on peut toujours, effectivement, se cacher derrière des principes. L'appropriation culturelle, en l'occurrence, c'est de prendre quelque chose. De toute façon, le rock en est une à l'origine, donc c'est pas. Mais c'est de prendre quelque chose et, en gros, laisser ceux qui l'ont créé de côté. Lui, c'est tout l'inverse. Il va chez eux, il leur demande la permission d'emprunter des choses et surtout il les invite. Et je trouve que sur ce disque-là, c'est assez brillant. Quant à la question des morts, ben évidemment, c'est un peu pareil. Là, c'est une appropriation d'une âme qui reste sur des bandes. Et comme ce projet est un projet de collage à l'origine, je trouve que ces fantômes-là qui dorment sur des bandes et dont on n'a pas encore entendu la voix, qui ressortent là, mélangés à d'autres gens, à des vivants, je trouve ça assez fascinant.
The Mountain, le nouvel album de Gorillaz, sort demain sur le label Kong.